Vous tuez deux ou trois personnes, en principe on vous emprisonne. Si vous en tuez deux, trois millions, on vous refile une décoration. Condamné ou félicité, c'est une question de quantité. Toi petit Louis, t'es pas dans le coup, t'as pas voulu prendre les armes, t'as pas voulu en tuer du tout. Ils t'ont mis tous en cabane. Le sort a de ses ironies pour le petit Louis. On baptise un monument, un boulevard ou une avenue. On lui donne généralement le nom des tueurs les plus connus. Un colonel, un général dont le nom s'enfonce le sable chaud. Ça vous remonte le moral le matin pour partir au boulot. Mais je vois avec mélancolie qui a jamais le nom de petit Louis. Le sort a de ses ironies pour petit Louis. La mode revient au militaire, au soudard et aux traînes rapières. La panoplie de l'assassin s'épanouit dans les magasins. Du côté de Saint-Amand-Montrond, ton nom ne dit plus rien à personne. Le maire s'appelle Maurice Papon, c'est le matraqueur de Charonne. Moi je redis le nom de petit Louis en contrepoint à la connerie. Le sort a de ses ironies pour petit Louis.
Et ma petite fille, qui est moitié allemande, parce que mon fils est marié avec une allemande, qui est beaucoup traumatisée par la guerre de 39, elle a 20 ans maintenant. Et quand elle était plus petite, 10-12 ans, elle était traumatisée parce qu'on leur apprend sur la guerre. Alors, Pépé, tu as tué ? Carrément. J'ai dit, Madeleine, je ne sais pas. Un jour, j'ai voulu, j'étais obligé, mais je sais pas, j'espère que non. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire tout ce travail pour lui répondre. J'ai fait tout ce travail parce que mon fils m'a un peu bousculé. Il dit, fais pas le vieux combattant, parle-en pas qu'avec tes copains. Que tu vas. Raconte ton histoire, dis-le. Alors, il y a très longtemps, j'ai essayé avec des montées, faire un album photo. Je suis pas bien ordonné. J'ai essayé avec les diapos, j'ai essayé avec la caméra, ça ne marchait pas. Et puis il me titillait toujours, et puis il y a la petite fille qui me dit, alors Pépé, mon fils Pierre, il me disait, écoute, fais quelque chose, je t'aiderai. On a une relation internet, puis bon, il me communique, il peut prendre mon ordinateur, il est dans l'informatique. Donc il me dit, moi je t'aiderai, on est ça. Je dis, écoute, je ne sais pas faire. Je sais pas par quoi commencer. Je lui dis, écoute, fais une préface. Fais quelque chose, après, ça ira tout seul. Et je lui ai jamais parlé de l'Algérie. Hein. 3 jours après, on a reçu cette lettre. Qui. Comment celui qui n'a jamais fait la guerre pourrait-il comprendre celui qui l'a faite ? D'ailleurs, entre ceux-là même qui l'ont faite, la compréhension est-elle possible? Chacun a fait une guerre, sa guerre, qui n'est celle d'aucun autre. Alors, à plus forte raison, concernant la guerre d'Algérie, cette guerre qui était une sale guerre, une guerre honteuse et sans héros, une guerre qui n'en a longtemps pas été une. Et pourtant, nous qui n'avons pas fait la guerre, qui n'en connaissons que ce que l'on en lit dans les livres ou ce que l'on en voit au cinéma, nous aimerions les comprendre, ces guerriers qui sont nos familiers. Comprendre comment un proche, un ami, a vécu sa guerre. Comment comprendre comment un type ordinaire, un gars qui n'a en tout cas rien d'un Rambo, l'a fête, comment il y a résisté dans son corps et dans son âme. Qui peut d'ailleurs s'imaginer le Dédé que nous connaissons? Dédé. Entrailli, un casque sur le crâne, grenade à la ceinture, en train de tirer sur un homme. Que se passe-t-il dans la tête d'un homme qui a fait la guerre? Qu'est-ce qui fait qu'après un silence obstiné de 40 ans, l'envie, le besoin de dire, de raconter se fasse jour? Quels étaient les sentiments du soldat qui nous parle aujourd'hui? Quel sens avait à l'époque des mots comme patrie, ennemi, peur, courage? Ont-ils encore un sens aujourd'hui? Qu'en était-il vraiment des corvées de bois? Que de questions. Questions que l'on ne peut manquer de se poser à l'évocation d'un Dédé guerrier. Beaucoup en tout cas pour un seul homme qui les tourne et retourne depuis des années sans forcément y trouver des réponses. Alors, comment pourrions-nous nous comprendre? Contentons-nous donc tout d'abord d'écouter. Pierre, septembre 97.
Monsieur Montagne, bonjour. Je vous remercie de me recevoir pour Radio Canu, pour l'émission Vendémiaire, pour apporter votre témoignage d'ancienne appelée en Algérie. Alors, on va parler de toute cette expérience, mais on va aussi parler un peu de vous et peut-être commencer au tout début. Vous êtes né quand et où?
Je suis né dans le village voisin, Saint-Maurice-sur-Darouère, et dans un hameau près de la D2, près de Rive-de-Gier, à la limite du département du Rhône, de la Loire. Donc je suis né le 17 septembre 36, dans une famille, j'avais déjà quatre sœurs avant moi.
Ah oui.
Et il y a eu deux frères après moi, une famille de
agriculteurs,
bien sûr. Et comme j'étais le premier garçon, ben, j'étais le bienvenu pour suivre la filière familiale.
Donc, vous étiez appelé à reprendre l'activité.
Oui, j'aurais aimé continuer les études, mais bon, il n'était pas question, puisque j'étais le premier garçon. Et à 14 ans, j'ai quitté l'école.
Et vous avez fait quoi?
Ben, l'agriculteur.
C'était l'élevage?
Il y avait un peu de tout. Il y avait tout. Il y avait, on avait 5-6 vaches, un petit peu de lait, un peu de blé, un peu de vigne, un peu de pommes de terre. Donc, il y avait tout. C'était échelonné. Une année bonne, une année mauvaise, comme disait Jean Ferrat. Quand il n'y avait pas de pommes de terre parce qu'il faisait trop sec, le vin était bon, ou le contraire.
Et une agriculture que vous vendiez ou qui servait surtout à vous faire vivre, vous?
On vendait, oui.
On vendait aussi.
Oui, on vendait aussi. Mm. Enfin, c'était des petits moyens. Hein. Mm. Mais enfin, c'était quand même... J'ai quitté l'école en 1950. 14 ans, 1950, après mon certificat d'études. Et c'était quand même... mon père avait acheté le premier tracteur de la région.
Je voulais vous dire, il y avait déjà un tracteur.
Oui, mais j'ai quand même labouré avec des bœufs en 1949. Oui, 1949, j'ai labouré avec des bœufs.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais il savait tout à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver.
Donc vous avez continué l'activité d'agriculteur avec votre père.
Oui.
Et vous deux, enfin, tout
oui.
ça.
Mes sœurs aidaient aussi, mais elles se sont mariées puisqu'elles étaient plus âgées que moi. Et puis j'avais un frère derrière moi, qui avait deux ans de moins que moi, qui travaillait un peu à la ferme. Alors, quand on avait le temps, ben, on allait travailler un peu chez les voisins pour se faire 4 sous.
Et dans toute cette période, vous étiez entré dans des mouvements de jeunesse, d'une sorte ou d'une autre?
Rien.
Rien.
Aucun mouvement, rien.
Donc,
même pas la JAC, rien. Comme formation, c'était la religion très stricte, c'est tout. Si bien que...
Et alors, donc, vous me dites 57, vous partez en Allemagne, mais avant, qu'est-ce que vous saviez de ce qui se passait en Algérie?
Rien.
Ça vous préoccupait pas?
Pas du tout.
Non, vous avez dû tomber de haut.
Oh là là, oui. Pourtant, il y avait quand même... Il y a eu un rappelé d'ici, de Saint-Didier, là, qui a été blessé en Algérie, qu'on connaissait. Mais non, ça ne nous préoccupait pas du tout.
Donc vous êtes appelé à quelle date, en 57?
4 janvier 57.
Ah oui, tout début d'année.
Oui, parce que je suis de 36, donc j'étais le dernier contingent de la classe 56, 56-2C. Et je ne connaissais aucun Algérien. Si, il y avait un Algérien dans le pays. Je ne connaissais pas d'Algérien. Pour mon départ, en janvier, je suis parti de chez moi, à 30 km de Lyon, entre Lyon et Saint-Étienne, par un quart, qui avait une ligne de quart entre Lyon et Saint-Étienne. Je suis parti de là à midi. Arrivé à Lyon, je me suis fait ramasser par des gars qui voyaient qu'on était paumés, qui m'ont emmené dans un camion jusqu'au fort La Duchère, qui existait encore à ce moment-là. J'ai couché là. Le lendemain matin, on est descendu à Vèze à pied. Et on a pris un train et on est arrivé, on a couché dans les trains. On a été passé par Strasbourg. On est redescendu à Fribourg. Et que le lendemain. On a mis pour faire 400 kilomètres.
Il faut dire qu'ils allaient moins vite qu'aujourd'hui aussi.
On s'arrêtait souvent. On s'arrêtait souvent.
Et quand vous partez en Allemagne, vous avez des copains du coin, de votre, des gens que vous connaissiez, qui partent avec vous,
Non, je suis parti seul, parce que les autres, on était quand même 5-6 conscrits, qui sont partis tous les deux mois. Donc on partait tous les deux mois, il y avait un contingent qui partait. Donc il y en a qui sont partis directement en Algérie, il y en a un autre qui est parti à Grenoble, il y en a un qui est parti à Madagascar.
C'est un peu étonnant qu'ils vous aient envoyé en Allemagne, parce que la plupart des gens du coin, ici, de Saint-Étienne, par là, ils allaient dans les chasseurs alpins à Grenoble.
Souvent, oui. Non. J'ai été incorporé, sur ma feuille de route, j'allais dans un régiment d'artillerie, près de Mulhouse, à 40 km de Mulhouse.
Mais en Allemagne.
En Allemagne, juste à la frontière, derrière, à côté de Fribourg, à Mulhem, juste derrière. Et c'était une chance, j'y suis resté 14 mois.
Ah, vous avez fait 14 mois. Donc les classes, 4 mois.
4 mois. Au bout de 4 mois, je devais partir en Algérie, et puis pourquoi ? Je ne sais pas.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait de vous pendant les 8 autres mois?
Eh bien, ça a toujours été très drôle, parce que je suis parti après sur le lac de Constance, à Radolfzell. Et là, je faisais l'entretien. Il me souvient, une fois, il était coupé des buissons autour d'un champ d'un dépôt de munitions. Il y avait encore beaucoup de troupes en Allemagne à ce moment-là. Et puis j'ai eu l'appendicite, une crise d'appendicite aiguë, j'ai failli y rester. Je suis resté 3 semaines le ventre ouvert, très malade. Et puis j'ai eu une convalescence que j'ai fait tirer. J'ai demandé, mon père m'a dit, si tu as une convalescence et que tu veux avoir un supplément, on arrachera les pommes de terre. Vous voyez l'ambiance.
Ouais. C'est curieux, parce que ni une pénalité de vous garder, ni un privilège, quoi. Ça s'est trouvé comme ça, sans raison.
Je m'étais fait un bon copain de Belleville, du Beaujolais, et lui-même aussi, tous les deux, on a été gardés, là, on ne sait pas pourquoi. Et puis après, je suis parti, autour du 15 août, je suis parti à Landau, au nord de Strasbourg. Et là, j'ai commencé à faire des gros yeux le jour où on est arrivé. C'était le 13e RTA, 13e régiment de tirailleurs algériens. Mmh. Et là, quand on est arrivé, je m'en souviens, c'était à midi. On était monté de Radolfzell en camion. Quand on est arrivé là-haut, à midi, on a été au réfectoire. C'était une grande écurie, c'était une ancienne caserne de cavalerie. Et tout le monde mangeait dans une ancienne écurie. Et les gars, ils avaient un turban sur la tête. C'était des Algériens. Il y avait beaucoup, il y avait peut-être la moitié d'Algériens. Et là, j'avais passé ce qu'on appelait le... pour devenir caporal, j'étais muté et je devais faire l'instruction.
De ces gars-là.
Enfin, il y avait quand même des Européens, qu'on avait les Européens et les musulmans. Et alors, il y avait une compagnie d'Européens avec quelques Algériens. Là, ça allait pas mal. Mais il y avait une autre compagnie, c'était des Algériens qui s'engageaient parce qu'ils avaient peur du FLN. Il y avait une autre compagnie où c'était tous des gens, des rafles, qui étaient pris dans les rafles, des pro-FLN, qui avaient... Alors, mon Dieu, c'était la bagarre.
Entre eux.
Oh là là. Et on était toujours consignés, on ne pouvait pas sortir en ville parce qu'il y avait des bagarres, c'était pas bon. Et là, j'ai souffert.
Des gens raflés en France ou en Algérie?
En France. Alors, dans les engagés, là, il y en avait qui, moi, que je voyais vieux, c'est-à-dire qu'il devait avoir 30 ans.
Ils avaient peut-être fait l'Indochine, non, déjà?
Non, ça, c'était tous des gens qui s'engageaient parce qu'ils avaient peur. Alors il y avait des bagarres, ça c'était. Et puis donc j'ai fait l'instruction là. Il fallait leur apprendre à écrire. Moi, j'ai jamais été doué pour ça. Leur apprendre à marcher au pas, leur apprendre à écrire.
C'était des bagarres qui allaient, ils allaient jusqu'à se tuer ou
non, mais c'était une bagarre sérieuse dans les chambres. Puis après, j'ai été muté dans cette compagnie où il n'y avait que des Algériens. J'étais seul dans une chambre de 20, je ne sais pas combien d'Algériens. Là, j'étais vraiment mal à l'aise. Mal à l'aise.
Parce que
Pour prendre la douche ou les habiller, j'étais. Bon, et puis j'ai.
Mais ils ne vous respectaient pas
ou... Si, mais ils parlaient algérien et je sentais qu'il y avait des sous-entendus. Hein. À la limite, j'aurais demandé à partir. Hein. J'en avais tellement marre que. Mais bon, je savais qu'en Algérie, ça allait pas bien.
Ça allait pas être mieux.
Non, il y avait un copain de petit village à côté de Saint-Andéol qui avait été tué. Puis on s'écrivait quand même. Il y en a qui étaient déjà en Algérie depuis certains temps qui souffraient.
Voilà. Donc ça a duré quelques mois.
14 mois.
Mais depuis le 15 août jusqu'à... Vous êtes parti en Algérie à quelle date?
Le 1er mars.
58
oui. Donc entre-temps, j'avais eu une convalescence que j'avais fait durer. Après, j'avais eu une permission agricole. Les paysans avaient droit à une permission spéciale agricole de 15 jours que j'avais prolongée, fait jumeler parce que j'avais une sœur qui s'était mariée, donc en septembre. Et puis arrivé en février, j'avais jamais eu de permission légale. Donc, j'ai eu une dizaine de jours de permission. Et là, je savais que c'était pour partir en Algérie.
C'est comme un indicible cri, et puis des larmes, c'est comme un indicible cri, il y a des larmes dans le cœur du conscrit, mais le conscrit tue son chagrin, à coups de bière, mais le conscrit tue son chagrin, à coups de bière. Et de refrain, quand on a 20 ans, on se croit tenu de terre, quand on a 20 ans, on se croit tenu de terre, son désarroi, et l'on rêve au joyeux retour, la tête fière, et l'on rêve au joyeux retour, la tête fière comme un tambour. Étouffant l'indicible cri, l'attrait des armes, l'attrait des armes, étouffant l'indicible cri, l'attrait des armes vous transforme un conscrit, un voyageur bon pour le train, tu vas en guerre, un voyageur bon pour le train, tu vas en guerre et souverain, en fer d'acier. Furieux convoi de cimetière en cimetière, en fer d'acier, furieux convoi des cimetières bardés de croix, là sous le flonflon des discours, pleurent les mères, là sous le flonflon des discours, pleurent les mères. Pas de recours. pas de révolte, pas de cri, rien que des larmes, rien que des larmes. Pas de révolte, pas de cri, rien que des larmes. Amen, c'était écrit.
Et vous êtes parti là aussi un peu tout seul, quoi, pas avec une bande de copains.
Ah ben si, là on est parti, et tout à. Tout, comment dire, tout. C'était le renfort, ils appelaient ça le renfort Joinville 3. C'était. Alors là, on est parti des centaines, peut-être.
Oui, enfin, quand je dis tout seul, je veux dire, vous aviez pas une bande de vous n'étiez pas une bande de 5, 6 ou 10 copains à partir ensemble.
Quelques-uns de mon régiment, si, quelques-uns. Mais. Je n'ai pas le souvenir des vrais copains. Le vrai copain, j'avais, donc du Beaujolais, il est parti en Algérie, mais dans un autre groupe. Il n'est pas parti avec moi.
Et ce départ, ça se fait comment ou...
Alors là, on a été rassemblés, des trains spéciaux, d'abord des camions qui sont allés jusqu'à je ne sais pas quelle ville. Mmh. Et on a mis un temps, je ne sais pas combien de temps, hein, pour descendre jusqu'à Marseille.
Je ne savais pas pourquoi.
Ben, il fallait s'arrêter, on n'était pas prioritaire. Hein.
Ah oui.
Il fallait s'arrêter. Je ne pense pas qu'on n'y aurait pas de manifestation, non.
Vous n'avez rien vu.
Non.
Et à Marseille, vous passez une nuit, juste
Je ne me souviens plus exactement. Je ne me souviens plus exactement là, si on avait attendu ou pas. Je me
vous n'avez pas de mauvais souvenirs particuliers de Marseille, quoi. Ça,
non. Plus tard, d'autres fois j'en ai eu parce qu'il y avait cette fameuse DIM là. Mm. Mais je crois pas que le jour où on est parti, on soit arrêté.
Oui, bien. Sur quel bateau
ville d'Alger.
Ville d'Alger.
17h, bateau, mer pas trop mauvaise.
Tranquille.
Là, cette fois, elle n'était pas trop mauvaise.
Et votre première impression en voyant les côtes algériennes?
Ben, c'était beau. Le matin, c'était un beau lever de soleil. Mais une impression assez de calme. Bien qu'il y avait, où il y avait beaucoup de militaires dans la ville, mais pas des gars en armes, mais c'était. Je ne croyais pas en guerre. Hein. Mais on n'a pas pu repartir tout de suite. Parce qu'il y avait eu des inondations sur la Soumam. Qui avait emporté un pont, donc on ne pouvait pas partir en train. Il a fallu qu'on attende le soir, donc on a été se reposer à cette fameuse DIM, là. Et on est resté tout le jour, jusqu'au soir où on s'est embarqué sur un petit rafio qui transportait du bois. On a été sur le pont, on est resté sur le pont toute la nuit. Et là, ça a été chaotique.
Et là, vous étiez en mer
ou... Oui, en mer.
En mer.
Et là, on avait déjà été dispersés, tout ce bataillon Joinville, on était déjà séparés, ah, ceux qui allaient dans un coin.
Les Algériens qui étaient avec vous à Fribourg, ils n'étaient pas venus, ils n'étaient pas du voyage.
Non, je ne me souviens pas, non.
Et on vous affecte où?
Eh bien, arrivé à Bougie le lendemain matin, alors on était mal, mais déjà, alors là aussi, là ça a été la première impression... tout de suite dans des camions et avec des automitrailleuses. Et puis aussi, on est dispersés. Il y en a trois qui participent. Mmh. Voilà. Donc moi, je suis affecté au 57e régiment d'infanterie. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que je devais aller dans un régiment d'artillerie, hein, mais j'ai jamais vu un artilleur parce qu'il était transformé en infanterie pour... crapahuté. Donc, 57e régiment d'infanterie. Et puis, alors, il y en a deux qui partaient, deux ou trois qui partaient au PC régiment qui était sur le bord de la mer en allant sur Djeli. Donc là, on avait été débarqué à Bougie. Hein. Mmh. Ils partaient sur Djeli et nous, on revenait de l'autre côté, on allait sur un petit village qui s'appelait Ouenamizour.
Pas loin des côtes, alors.
Pas loin des côtes. Ouenamizour était à 25 km de Bougie, dans la plaine de la Soumam. Là, c'était beau, des vignes, des orangers. Mais la première impression, donc, d'un côté, on avait les montagnes avec des petits douars, des machins. Et puis de l'autre côté, des grandes plaines de vignes.
Vous alliez faire à cet endroit-là?
On ne savait pas. On ne savait pas. Et les anciens, bien sûr, on était escortés, donc une automitrailleuse, c'était impressionnant. Et puis des gars en armes dans le camion qui nous disaient, méfiez-vous, sérieux, pas tout. Qui nous disaient, nous expliquer un petit peu ce qui allait se passer. Et puis on a vu, nous expliquer, il y avait un bâtiment sur le bord de la route, c'était où il y avait tous les blindés, les camions, le service entretien. Mmh. Un peu plus loin, il y avait un autre bâtiment. C'était le service habillement. Et puis alors, plus loin encore, avant Ouenamizour, il y avait un très très grand domaine colonial, une grande grande ferme. Et là, il y avait le PC Bataillon. On s'est arrêté un moment, au but de la bière. On a dû s'arrêter quelques heures. Puis on est reparti encore. On a laissé des gars. Puis on est reparti plus loin encore. Cette fois, on était plus 3 ou 4. Et on est parti au petit village de Ouenamizour. Enfin, petit village. Le village était bien. Il y avait des magasins. Il y avait une grande gendarmerie. Grand terrain de foot, puis le village qui commence à grimper. Il y avait des commerces.
Combien de personnes à peu près? 1000, 2000?
Ou 2000 habitants.
Oui. Un bourg.
Un beau gros bourg. Et puis quand on a quitté un petit peu le village, on montait, oula, ça commençait à se. Les bâtiments devenaient des masures, des gosses mal habillés. Et là, je le répète tout le temps, j'ai pas pu m'empêcher de dire aux gars qui étaient avec moi, c'est pas possible, on vient pas défendre ces gens-là. C'est ma première réaction, alors que j'avais aucune conscience de ce qu'on allait faire, mais ça, ces gosses... Puis c'est vrai qu'au plus on montait, plus c'était... Donc je redis ça. Et puis on est monté encore un peu plus loin, peut-être à combien 2 kilomètres. Et d'un côté, il y avait un grand bâtiment. C'était des Algériens qui y habitaient. C'était la maison du Bachaga. Il y avait le Bachaga au Rabat. Et j'ai appris, après, c'était une très grande famille algérienne, une vieille famille algérienne. Ça correspondait un peu au sénateur, je crois.
Oui, c'était des notables.
Des notables. Et qui ont eu beaucoup de morts pendant les guerres, qui ont œuvré pour la France aussi beaucoup. Alors d'un côté, il y avait ce bâtiment sur une crête, et d'autre côté, il y avait leur ferme. Et après, j'ai appris aussi, puisque j'ai crapaudé dans le coin, ils avaient d'autres fermes dans le... Donc une ferme qui avait été réquisitionnée où il y avait ce qu'on appelait la base arrière avec tout le service du PC régiment, la cuisine.
Ces gens-là étaient très liés à l'armée française.
Voilà. Oui. Et donc, on a été habité donc dans les locaux de la ferme. Et j'ai été surpris parce que les chambres étaient plus jolies que celles chez moi. Il y en avait une grande ferme qui était carrelée. J'ai jamais vu un carrelage de ma vie. Donc, et puis il y avait encore deux autres chambres plus petites, moins aménagées. Mais il y avait très peu de militaires. On a été accueillis par un lieutenant qui était là parce qu'il était libérable. Il allait être libéré. Et puis deux autres gars qui étaient libérables, qui montaient la garde. Et tous les autres étaient partis en opération pour plusieurs jours. On a été accueillis par ce lieutenant très sympathique, mais qui allait partir.
Cette ferme n'était pas spécialement bien gardée, quoi, pas.
Non. Non. Ça, c'est une impression que j'ai eue aussi. Et puis tout de suite, il y a le fils, donc, au rabat. Un gars, je voyais plus vieux, il a peut-être 30 ans. Et qui m'a impressionné, il était bien en européen. Et puis après, on l'a vu, il était toujours avec nous, il travaillait pas. Et là, il avait une traction. Et il partait, il emmenait les... Il y avait beaucoup de femmes, non ? Je ne sais pas combien il y avait de ménages, je ne sais pas. Il emmenait les femmes faire des courses, tout. Jamais escorté, jamais... Et par contre, non, il y avait une grande cour où on montait la garde, quand même. Il venait beaucoup de gens voir le grand chef, le grand ouraba. Il venait des pauvres qui venaient avec une gamelle, il venait des gens un peu... Il donnait des renseignements. Il était bien avec l'armée française.
Et il n'a jamais été attaqué par le...
Non, on n'a jamais été attaqué. Il n'y avait même pas de barbelés, rien. On montait la garde. Enfin, on montait la garde. Oui, il y a toutes les deux heures, il y avait garde qui changeait. Moi, j'étais caporal à ce moment-là. J'avais été nommé caporal. Et de ce fait, je ne montais pas la garde le jour. Je prenais quand même le service la nuit.
Et vous aviez combien d'hommes sous vos ordres, hein?
Oui, j'avais le groupe de fusiliers mitrailleurs. Je commandais le fusil mitrailleur. J'avais donc le tireur et puis trois porteurs de musettes de munitions. Donc il y avait deux Algériens et un Marseillais. Alors, j'ai constaté que le tireur, c'était un Algérien aussi, portait le fusil mitrailleur, tireur d'élite, quand on s'entraînait, après, il les voyait pas. Il ne voyait jamais. Et puis, il y avait un porteur, c'était ça le boulot, le porteur, c'était très lourd, puis c'était on les appelait les arioules. Et il y en a un qui était sûrement plus intelligent que moi, et il le prenait très mal.
Ça voulait dire quoi, Arioul?
Anne.
Anne.
Il était batté. Et il le prenait mal. L'autre, c'était un pauvre type, et portait sans rien dire. Tout. Mais ce Haït Chalalet, là, il le prenait très très mal.
Ce petit groupe que vous commandiez, il partait pas tout seul en opération. Donc, j'imagine que vous étiez un élément d'un ensemble.
Voilà, donc il y avait deux équipes de voltigeurs, ça s'appelait, de cinq aussi, et puis à l'arrière pour appuyer le groupe de fusil-mitrailleurs. Et puis, donc, avant, j'aurais dû dire en premier, le lieutenant avec le radio, et puis un ou deux qui le suivaient. L'infirmier était au PC.
Au PC,
là, oui. Et on sortait, donc il y avait deux sections. Première section, deuxième section, troisième. La troisième section. Alors, il y avait toujours deux sections qui crapahutaient, et la troisième section était en repos.
Ah oui.
Le repos consistait, on verra après, à garder les fermes, garder la mairie. Voilà. On était en repos pour la garde.
Et vous êtes dans cette affectation-là, vous êtes resté combien de temps?
Eh bien, les 14 mois.
Ah, vous n'avez pas bougé, là.
Non.
Vous avez...
non. Mais j'ai eu le fusil mitrailleur un coup, après j'ai eu le fusil à lunettes. J'ai changé un peu suivant. Je ne sais pas quoi.
Et ils vous envoyaient en opération souvent ou...
Oui, assez souvent.
C'est-à-dire
ouais.
Tous les jours.
C'était pas. On était toujours prêts. Mais il y avait beaucoup de protection. On protégeait les gens, des sociétés qui travaillaient. Mmh. On protégeait le colonel qui venait faire des discours. On protégeait des autorités qui circulaient, vous voyez, ou des convois. Il y avait notamment, qui travaillait avec nous, il y avait une marque qui était dans un pays perdu, où les gens avaient déménagé parce qu'ils ne pouvaient plus tenir. Donc il y avait une marque. Alors pour approvisionner cette marque, c'était compliqué parce que c'était loin, c'était dangereux, alors ça demandait des complications.
Mais il y avait quand même des rebelles, des opposants, des gens du FLN qui étaient là au milieu, ou qui, vous avez l'impression que... Pas trop.
Au départ, c'était assez calme, mais bon, la nuit, il y avait quand même, on entendait des rafales, ouais. Puis bon, on partait en opération parce qu'il y avait des renseignements, on crapahutait, hein, on quadrillait des coins, et puis on ratissait.
Et vous trouviez
Non. Jusqu'au. De mars. De mars jusqu'à fin mai, on n'a rien vu. Ça s'est tout bien passé, même on en avait marre de transporter des armes, des munitions, on n'était pas tout foutre en l'air. Parce que,
pour rien.
Il faisait beau, il faisait chaud, c'était beau. Et puis, on descendait au village, on allait prendre une douche de temps en temps, le boulanger avait fait une petite douche. Et pour 2-3 francs, pour combien, on prenait une douche, c'était ouais. Bien. Et puis même, on pouvait aller jusqu'à un peu plus bas dans le village, on y allait à plusieurs, armés, il y avait une dame qu'on appelait la Madame Albert, une Européenne, on la voyait plus âgée, 40 ans, on allait boire la nisette. Donc c'était, elle savait faire, elle avait du charme, bon, c'était une femme, hein. Nous on avait 20 ans, on n'en voyait point. Voilà. Et puis il y avait même, on pouvait aller, il y avait une église, il y avait un curé qui venait. La religion comptait beaucoup. Quand on pouvait aller à la
messe. Vous alliez à la messe tous les dimanches
Non, parce qu'on travaillait souvent le dimanche. Souvent. Mais moi j'y suis allé plusieurs fois.
Dans ce village, vous étiez en sécurité, quoi.
On se sentait en sécurité.
Vous aviez quand même vos armes en
main. Oui. On faisait attention. Puis fallait. Mais on se sentait un peu en sécurité. Il n'y avait pas de. Au début, il y avait. Ça s'est dégradé plus tard, mais c'était calme quand même. C'était assez calme.
Ce bled, il faisait chaud, l'ennui nous trouait la peau. On vivait sans savoir si on reviendrait au pays. À la caserne le soir, on avait souvent cafard. Heureusement, il y avait Fanny, j'y pense encore. Aujourd'hui, certains soirs, c'était fatal. Ces chansons nous faisaient mal. Alors on riait plus fort et l'on buvait plus encore. Mais Fanny, qui le savait, venait vers nous et trinquait. Heureusement, il y avait Fanny. Encore aujourd'hui. Puis un jour on est parti, car la guerre était finie. Mais au milieu du chemin, main. Fanny pleurait dans ses mains. Nous autres on lui a souri. Que voulez-vous, c'est la vie. Mais la chanson de Fanny, j'y pense encore aujourd'hui. Il y avait Fanny qui chantait dans ce pauvre cabaret. Il y avait Fanny qui chantait et nous autres on l'écoutait.
Et puis le 31 mai, on se reposait parce qu'on avait crapahuté les jours précédents, il faisait chaud, on était fatigué. On se reposait et tout à coup, dans le milieu de l'après-midi, il y a eu beaucoup de va-et-vient chez le Bachagan dans la Matité. Il y avait beaucoup de va-et-vient, un peu bizarre. Et tout à coup, vers les 3h de l'après-midi, fallait partir à vitesse, il y avait une bande de Fellagas dans un village voisin, ils étaient je ne sais plus combien, et il fallait aller les chercher. Il fallait aller les... Et ça devait être une opération comme au cinéma. Le lieutenant nous explique, il y a déjà la Arca qui arrive d'un côté, qui va bloquer l'Oued, qui sera sur un côté de l'Oued. Une autre compagnie qui arrive par le haut qui va les rabattre dans le village. Nous, on sera là, on va les prendre. Ils seront pris dans une nasse. On part dans les camions, on va se planter. Et quand on a vu le village, donc les camions sont arrêtés, on est descendu, on a commencé à descendre juste pour prendre position. Et le lieutenant, qui est, j'en ai pas parlé, parce que je ne veux pas dire son nom, est un peu fou. Et comme ça devait être comme au cinéma, il n'avait pas pris sa tenue de combat, il avait son képi, il avait machin, il avait même pas... Qu'est-ce qu'il n'avait pas pris? Il n'avait pas pris les jumelles non plus. C'était que ça devait se passer comme au cinéma. Et quand même, il voit de l'autre côté, oh, ben, la Arca est en place, c'est étonnant, il voyait envoyer des gens qui se mettaient en position, l'Arca se met en position, ben, c'est bien. Et puis, il y a donc une équipe de voltigeurs qui descend dans l'Ouest, tout au fond, pour leur barrer la route. Donc, ils devaient être vraiment pris en masse. Et nous, alors, le lieutenant, et puis deux autres gars, et moi, on descend pour se positionner, là, un peu plus loin, derrière des gros oliviers, et tout à coup, on est pris sous le feu. En face, c'était pas l'Arca, c'était des FLN. Et nous, c'était pentu, très pentu, c'était nu. On s'est retrouvés tous les quatre derrière un petit buisson, on ne peut pas bouger. Et ils tiraient, toutes les fois qu'on bougeait, il y avait un Algérien avec nous. Et les autres, les Fellagas étaient pas là, et ils nous disaient, nous commentait, disait, il parle de nous, il nous voit, et on ne peut pas bouger. Et le lieutenant qui était là fumant, je suis sûr qu'il voit mes galons, je suis sûr. Et il y a un gars à côté de moi qui appelait sa mère. On était vraiment piégés. Et puis, au bout d'un moment, quand même, le lieutenant et les montagnes, j'avais le fusil à lunettes à ce moment-là. Il me dit, montagne, avec le fusil à lunettes, il faut monter derrière la butte, là, et de là, vous tirerez. J'ai refusé. J'ai dit non, j'y vais pas. J'ai dit, je me laisse rouler en descendant, mais je ne vais pas, je ne monte pas. Il n'a rien dit. Et tout à coup, on a entendu des lance-grenades. Des grenades qui éclataient, lance-grenades. Et j'ai pris le commandement. J'ai tout de suite compris que c'était les gars qui étaient dans l'Ouest. qui tirait au jugé, il ne voyait pas parce qu'il était dans la nature. J'ai crié, j'ai gueulé, j'ai pris la place du lieutenant. J'ai dit, Bagnon, tire plus loin, plus loin. Et ça a fonctionné. Ils ont arrêté de tirer sur nous. Pendant ce temps-là, plus haut, il y a un de mes collègues, un bon collègue, je m'étais fait là-bas, qui avait été blessé. Il a reçu une balle qui lui a traversé le. Même pas grave, qui lui a juste traversé là. Et puis les flingas, là, ils ont décroché, ils sont partis.
Ils ont réussi à s'extraire.
Oui. Et pendant ce temps, parce que l'ARCA arrivait derrière eux, à ce moment-là. Ils étaient en retard, ils arrivaient. Il faut dire que l'ARCA, elle était commandée par un sergent pour. Donc nous, on avait tout monté dans les camions.
On a fait dans votre buisson, là, c'était votre baptême du feu,
oui.
Ça,
hein,
oui. Vous avez dû avoir une peur horrible.
Ah oui. On nous avait dit, quand les balles sifflent, c'est pas grave, hein, vous les entendez siffler, c'est qu'elles passent. Puis on était habitués au baptême du feu, pas tout à fait, parce que on avait un sous-lieutenant qui était un peu. C'était un sous-lieutenant de l'armée. Et il nous avait pris en main, après que l'autre a été libéré, là. Et il avait peur de nos réactions, il n'avait pas confiance en nous. Et il nous faisait crapahuter, et puis à un certain moment, il nous disait, allez, il y en a qui se couchent derrière le talus, là, il nous faisait tirer dessus avec le. On était quand même habitués un petit peu au bruit, mais. Quand ça pète vraiment. Et puis là, tous les coups qu'on bougeait, on avait droit à une rafale.
Quand vous bougiez pas, ils tiraient pas.
Ouais.
C'est bizarre.
Oui. On voyait un petit peu de la lune. Je le revois encore, un peu de la poussière. Donc après, on est reparti dans les camions. On a fait le tour de l'Oued pour leur courir après, mais ils étaient partis. Et puis on s'est retrouvés bien plus loin, dans le PC bataillon. On a bu quelques bières, on commentait ça, et à partir de ce jour, le lieutenant il nous a jamais plus embêté. Il a vu que. Et moi, il ne m'a jamais tenu compte que j'avais refusé les ordres. Au contraire, après, il m'a fait nommer caporal-chef. Et alors, bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'allais à la messe, je croyais. Pas le seul. Et le lendemain, cet accrochage, c'était un dimanche. Il y avait beaucoup de monde à la messe. Et beaucoup d'appelés à la messe.
Ah.
C'était.
Nous étions fiers d'avoir 20 ans pour offrir aux glèbes augustes la foi de nos cœurs éclatants et l'ardeur de nos bras robustes. Mais voilà qu'on nous fait quitter notre clair sillon de bonté pour nous mettre en ces enclos ternes que l'on appelle les casernes. En nos mains de semeurs de blé dont on voyait hier voler les gestes d'amour sur la plaine, en nos mains de semeurs de blé. On a mis des outils de haine aux fusils qu'on nous mit en main. Fusils qui tuerez-vous demain. Notre front qui ne s'est baissé encore que par devant le terre bouge en sentant sur lui peser la discipline militaire. Mais s'il bouge trop notre front, combien d'entre nous tomberont par un matin de fusillade sous les balles des camarades. Nos yeux regardent sans courroux les gars dont les tendresses neuves s'essaiment en gai rendez-vous là-bas sur l'autre bord du fleuve. Mais un jour de soleil sanglant, à combien de pauvres galants ayant un cœur pareil au nôtre coucherons-nous dans les épôtres? Nous trinquons dans les vieux faubourgs avec nos frères des usines, mais si la grève éclate un jour, il faudra qu'on les assassine. Hélas, combien les travailleurs auront-ils à compter des leurs sur les pavés rougis des villes après nos charges imbéciles? Mais en nos âmes de 20 ans gronde une révolte unanime. Nous ne voulons pas plus longtemps être des tâcherons du crime. Pourtant, s'il faut encore avant de jeter nos armes au vent, lâcher leur décharge terrible, nous avons fait choix de nos cibles. En nos mains de semeurs de blé dont on voyait hier voler les gestes d'amour sur la plaine, en nos mains de semeurs de blé. Puisqu'on vous tient fusil de haine, tuez s'il faut tuer demain ceux qui vous ont mis en nos mains.
Ainsi se termine cette première émission d'une série de 3 consacrée à André Montagne. André Montagne, un des 1 343 000 jeunes Français appelés entre 1956 et 1962 qui ont été envoyés combattre en Algérie. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes. La chanson « Petit Louis », un hommage à Louis Lecoing, de Roland Hainaut pour les paroles, Elisabeth Gillet pour la musique, interprétée par Elisabeth. Ensuite, c'était la chanson de Jean Ferrat, paroles, musique et interprétation, La Montagne. Puis c'est André Bonhomme qui interprétait sa composition paroles et musique, Le Conscrit. Ensuite, vous avez entendu par Kadour Darsouni un extrait de Rouy et Azbek. Puis c'est Hugo Frey qui interprétait sa chanson Il y avait Fanny qui chantait. Ensuite, vous avez entendu la chanson des fusils de Gaston Coutet sur une musique de Jeanne Garot dans l'interprétation de Rémo Gary. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la 2e émission de notre série de 3 consacrée à André Montagne. Bonsoir. Thank you.
Thank you.